On continue notre étude sur l'Église. Aujourd'hui, on va parler des promesses de Dieu pour l'Église. Dieu a fait des promesses à l'ensemble de l'humanité. Sa parole est pour atteindre tout le monde. Hein? Quand Dieu appelle tout le monde, il appelle tous les hommes à qui est à se repentir, que ça dit dans la parole. Mais c'est évident que c'est pas tout le monde qui entend parler, puis c'est pas tout le monde qui se repent non plus. Fait que les promesses, veut pas, c'est pas tout le monde qui les connaît. Qui en particulier serait supposé d'en connaître des promesses de Dieu? Sinon, si c'est pas l'Église du Seigneur qui est attachée au Seigneur, puis qui est attachée à ses paroles. Puis l'Église du Seigneur, normalement, les enfants de Dieu, ils lisent la Bible. On est conscient des promesses. Sont là les promesses. Ces promesses, on l'a chanté tantôt, ces promesses sont vraies, sont certaines, puis ils ne manqueront pas. Puis pour être franc, comme je vous disais tantôt, c'est pas tout le monde. Les promesses seront pas pour tout le monde, parce que c'est pas tout le monde qui est ouvert à vouloir les connaître, à vouloir les recevoir. C'est particulièrement pour l'Église que le Seigneur a destiné ses promesses. Il savait que son Église serait debout, puis son Église restera ferme dans la foi, puis son Église s'accrochera à ses promesses. Donc, les promesses, Dieu savait très bien que c'était pour son Église. Fait que tout ce qui est dans l'Église, dans les promesses, je veux dire, tout ce qui est dans les promesses, si c'est pour l'Église, c'était pour nous. Pour qu'on on le sache, que ce qu'il a promis, puis qu'on puisse s'accrocher à cela. Dans tout l'ensemble de la Bible, il y en a des centaines et des centaines de promesses. Parce qu'il y a des promesses qui ont été données depuis le début de la création. Vous savez, quand Dieu a dit que sa descendance à Ève était pour écraser la tête du serpent. C'est une promesse, ça-là. Puis on en bénéficie aujourd'hui de cette promesse-là. Donc, cette promesse-là servait pour son Église. Mais elle était dit, voilà, presque 6000 ans. Fait que les promesses qui sont dans la Bible, peu importe les celles qui sont bien loin dans le temps ou les celles qui s'appliquent encore pour aujourd'hui, parce que des fois, ça arrive que Dieu te fait une promesse dans ton cœur ou qu'il y a une prophétie qui est donnée par quelqu'un et que c'est Dieu qui te le dit, que tu vas vivre telle et telle chose. Ces promesses, nous autres, elles sont pour nous puis on les attend, on s'accroche puis on veut les obtenir. Dans toutes ces promesses, il y a des promesses qui étaient pour la vie présente, parce qu'il y a des promesses qui s'adressent pour les choses du temps ou ce que nous vivons présentement, puis il y a des promesses qui sont pour après, pour dans la vie éternelle, pour le règne de mille ans puis la vie éternelle. Il y a des promesses dans la Bible pour toutes les époques. À travers tous les temps, ceux qui avaient la foi pouvaient s'accrocher à ce qu'ils lisaient puis pouvoir s'attendre à ce que Dieu fasse des choses dans leur vie. La plus grande des choses pour nous, on le sait, c'est d'être sauvés. Il n'y a pas de chose plus grande que ça. T'as beau avoir un beau char, que Dieu te donne d'avoir un beau char, d'avoir une belle maison, d'avoir une belle femme, d'avoir tout de beau, là. Si t'es pas sauvé, t'as pas l'essentiel, parce que la promesse de qu'il fait particulièrement à travers de son Fils, c'est de nous donner la vie éternelle. Mais comme qu'on voit dans la parole, il y a des promesses pour la vie présente puis d'autres pour la vie à venir. Dans 1 Timothée 4:8, ça dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. La piété, là, c'est de vivre d'une manière pieuse. Une manière pieuse, c'est être des gens qui prient, des gens qui louent Dieu, des gens qui cherchent Dieu. Ça, là, c'est de la piété. Des hommes pieux, c'est des hommes qui s'accrochent à Dieu puis qui prient Dieu. Puis ça, la piété, là, c'est utile à tout parce que la piété a les promesses de la vie présente et de celle à venir. Les promesses de Dieu sont pour les gens pieux. Puis l'Église, les chrétiens, c'est des gens qui cherchent Dieu. Cherche la présence de Dieu, cherche à être rempli de Dieu, cherche à s'appuyer sur Dieu. Donc, c'est des gens pieux, les promesses, c'est pour nous. Il dit que la piété, c'est utile à tout, puis c'est la piété qui va obtenir les promesses de la vie présente puis de celle à venir. Dieu nous a promis dans sa parole des promesses que nul autre ne peut faire. que nul autre ne peut accomplir. Des promesses grandioses. Dans le passage dans 2 Pierre, j'en ai déjà parlé de ce verset-là, mais je le trouve super bon. Parce que c'est encourageant de savoir ce qu'on a à nous en tant que chrétiens, en tant que peuple de Dieu, en tant que membre de l'Église du Seigneur. Ça dit qu'il nous assure de sa part, en parlant de Dieu, que Jésus qui est mort sur la croix, pardonner nos péchés, puis grâce à lui, ça nous assure de sa part les plus grandes puis les plus précieuses promesses. Vous savez qu'il y a des religions qui ont des promesses. Il y en a des religions, c'est pas que je veux me moquer, là, mais il y a comme un exemple, ceux qui parlent, qui pensent qu'il y a une réincarnation. Pour eux, leurs promesses qui s'accrochent, ils pensent qu'ils vont revenir d'un autre corps, puis ils vont continuer à vivre des souffrances dans le but de s'améliorer, puis vous savez, selon ce qu'on sait, il n'y a pas un qui est juste dans sa terre. Fait que tu vas toujours refaire des péchés, si ça existerait une promesse semblable, là, c'est sûr que tu vas toujours rester au bas de l'échelle, parce que on est tous des pécheurs. Il n'y a aucun humain qui est rendu parfait à sa planète par ses réincarnations, si ça existerait. Fait que les gens s'appuient sur des promesses d'un espoir de revenir, puis il y en a qui ne savent même pas en quoi qu'ils vont revenir. Peut-être qu'ils vont revenir en mouche ou en maringouin. Mais là, c'est pas une promesse qui est bien intéressante si tu compares ça avec les promesses bibliques. Ça parle d'une résurrection puis d'une vie éternelle dans la félicité éternelle, dans la joie, dans le bonheur, dans l'amour, dans la gloire, dans la présence de Dieu. Plus de souffrance, plus de maladie, plus de peine, plus de pleurs. Tout est fini, plus de deuil. Ça va être que le super positif. Puis c'est pas que tu vas te réincarner en une autre personne puis tu te rappelles pas de qui ce que tu étais. C'est une résurrection de ce que qui tu es avec tes souvenirs, puis tu vas te rappeler qui ce que tu es, puis tu vas te rappeler de ceux que tu connaissais, puis tu vas te rappeler de tous ceux que tu vas reconnaître l'autre bord. On va être que dans l'émerveillement des beautés de ce que Dieu nous propose comme promesse. C'est les plus grandes puis les plus précieuses promesses de conserver notre vie puis de vivre même après la mort. Il n'y a pas rien de plus grand que ça. Puis en plus de ça, dans ce verset-là, ça dit de ce qu'il y a de précieux de plus qu'on va vivre. On devient participant de la nature divine. Là, présentement, on est dans la nature humaine. Mais quand tu nais de nouveau, le Saint-Esprit rentre dans ta vie. Tu te quoi de plus grand que ça, que savoir que Dieu est venu habiter dans ton corps, que le Saint-Esprit est là, puis c'est lui qui conduit dans cette vie, puis qu'un jour, qu'on va être en lui 100%, je te dis pas qu'on va le remplacer. On reste toujours des créatures sauvées par grâce, on a sa nature, puis on va vivre éternellement, sauf qu'on reste encore les créatures qui vont vivre sous la nouvelle terre. On n'habitera pas la lumière inaccessible de Dieu. Mais on ne remplace pas Dieu. Mais Dieu nous amène à être dans sa nature, puis de permettre de vivre éternellement sur une nouvelle terre. Ça va être extraordinaire. Ça, c'est les plus grandes, plus précieuses promesses. Il dit, afin que ces promesses-là, là, vous deveniez participants de la nature divine. Puis ça nous amène à fuir la corruption qui existe dans le monde. Parce que quand tu es né de nouveau, déjà tu combats contre les corruptions, mais en plus de ça, mais qu'on soit ressuscité, tu n'en vivras plus de corruption. C'est un corps incorruptible que ça dit dans le Nouveau Testament, qui ne sera plus corrompu. Il n'y a pas rien de plus grandiose que ça. Puis c'est à qui cette promesse-là? C'est à chacun de nous qui sommes assis ici, là, en train de s'accrocher aux promesses qui sont annoncées là. Puis on veut les obtenir. Tout ce que Dieu a promis, il va le faire. Il n'est pas menteur. Puis il ne changera pas d'idée. Ça nous dit dans 1 Samuel, chapitre 15, le verset 29. Il dit, celui qui est la force d'Israël ne ment point. C'est qui est la force d'Israël? C'est pas un homme, c'est Dieu qui est la force d'Israël. Puis il ne ment point, puis il se repentira point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Ce que Dieu a annoncé, il va le faire, puis il change pas d'idée. En plus, il dit, c'est celui qui a la force, qui est la force d'Israël. Puis c'est pas juste une force comme une force que nous, on se pense fort. Dieu, il a la capacité, il a la force de faire tout ce qu'il a promis. Il n'y a pas de promesse en l'air, oh, si j'y arrive, ou si j'arrive à temps, ou si je pense bien d'être capable. Non, c'est pas ça pantoute. Il est capable, puis il l'a promis, puis ce qu'il a dit, il va le faire. Puis il ne changera pas d'idée. Toutes ses promesses, il ne changera pas d'idée. Sont éternelles. Les promesses qui sont annoncées par le Seigneur ne seront point révoquées. Ça arrive des fois que des rois dans un pays, ou même les premiers ministres, ou un président d'un pays, il a eu des lois de passer, puis à un moment donné, un autre président, il change les lois comme qu'il veut, puis il change les affaires parce que lui, il pense différemment. Ça arrive parmi les hommes que les lois changent. Mais Dieu, non. Ce qu'il a promis, il ne révoquera pas ce qu'il a dit. Ils sont fiables. Digne de confiance, puis il va le faire, puis il l'a juré qu'il était pour les faire. On voit ça dans Ésaïe 45, le verset 23. Il dit, je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jurera par moi. Si on le reprend dans le Nouveau Testament, où ce que tous les genoux vont fléchir devant le Seigneur, puis toute langue va confesser que Jésus est Seigneur. Mais quand Dieu promet de quoi, il veut qu'on soit conscient de ce qu'il dit. Je le jure par moi-même. Il ne jure pas sa tête de sa main, jurer sa tête de son père. Même nous autres qu'on dit, on jure sa tête de Dieu, écoute bien. Dieu le jure par lui-même, il n'y a pas plus haut que lui. Il jure par lui-même, puis il dit que la vérité sort de sa bouche, puis elle ne sera pas révoquée. Ça veut dire que tout ce qui a été prononcé par sa bouche va être accompli comme qu'il le dit. Il ne changera pas d'idée. Il n'y a pas de moment où ce que tu vois que ce qui est écrit dans la Bible soit changé pour autre chose. Révoquer, ça veut dire tu changes la loi, tu l'abolis, puis t'en mets un autre. On peut dire, oui, qu'il a mis une deuxième loi. Oui, c'est vrai qu'il a mis une deuxième alliance. Il y avait l'alliance de l'ancienne alliance, puis Dieu a accompli un moyen pour en avoir une deuxième, puis là, aujourd'hui, tu as le choix de choisir. Tu veux-tu être sa première, tu veux être sa deuxième? Tu veux-tu les promesses de la première alliance ou tu veux les promesses de la deuxième alliance qui est dans son fils? Puis dans son fils, on a tout à gagner en suivant cette alliance-là. Toutes les promesses sont oui et amen en son fils. Fait que cette alliance-là, c'est pas qu'il a enlevé l'autre. L'autre est encore là, puis encore du monde qui se confie dans ça. Sauf qu'elle n'a pas d'utilité réelle si tu compares ça avec la nouvelle alliance. L'ancienne alliance comptait que tu gagnes par toi-même les mérites pour obtenir, puis si tu l'accomplissais pas à 100%, t'es perdu. Dans la nouvelle alliance, c'est que les mérites, c'est pas les nôtres qui comptent, c'est celle de Jésus-Christ, qui est mort sur la croix, puis c'est grâce à lui qu'on obtient les promesses, pas à cause de nos mérites. La minute qu'on se confie, puis on pense, « Oh, je suis assez bon que Dieu va me le donner », pas pantoute, c'est sûr tu l'auras pas. Faut que tu penses que c'est grâce à Jésus, puis quand tu pries le Père, tu pries dans le nom de Jésus afin qu'il y ait zéro chance que tu ne l'aies pas. Sinon, si tu t'appuies sur tes mérites, c'est 100% que tu ne l'auras pas. Mais Dieu a donné un deuxième choix, mais ce choix-là est annoncé pareil dans l'Ancien Testament. C'était annoncé qu'il viendrait le Messie, puis qu'il mourrait pour les pardons des péchés, puis tout ça. C'était pas une nouveauté, mais il voulait donner la chance aux humains de s'accrocher à marcher par la foi dans les mérites de son fils. Puis tout ce qu'il a annoncé, ça va s'accomplir, il l'a juré. Il dit sa parole contenant ses promesses en fin de compte, demeurent éternellement. Parce que même les choses qui sont annoncées, ces promesses qui ont été annoncées présentement, dans l'éternité, on va en parler encore. Puis encore des choses qui vont se dérouler exactement comme qu'il l'avait annoncé dans le temps présent. Dieu nous a annoncé des choses qui sont même pas encore arrivées, qui vont arriver seulement quand on va être dans l'éternité. Puis ces promesses vont rester là. Dans 1 Chronique 16-15, il nous parle dans ce sens-là, puis il y en a plusieurs versets qui parlent dans ce sens-là. Il dit, « Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. » Savez-vous que 1000 générations, ça n'existera pas sur la terre? Juste pour les 4000 ans d'histoire, là, entre Abraham et Jésus, là, il disait trois fois 14 générations. On parle de 40-50 générations entre Abraham et Jésus. Puis si tu calcules les autres descendants, jusqu'à, il y en a peut-être 60-70 générations jusqu'à Jésus. Du début jusqu'à Jésus, pour 4000 ans, à peu près 75-80 générations. Puis là, on a encore 2000 ans d'histoire. Ça veut dire que s'il y a 100 générations, là, depuis le début de la création jusqu'à la fin, c'est beau. Puis lui, il dit, rappelle-toi-en jusqu'à 1000 générations. Ça n'existera pas 1000 générations sur la terre. Mais il dit, les promesses sont encore là, même pour 1000. Ça veut dire que même après la fin de la vie terrestre, les promesses sont encore valables. Puis on va les voir s'accomplir, les choses qu'il a promis présentement, ou il y a 2000 ans, vont s'accomplir dans l'éternité comme ça a été annoncé, puis ça ne changera pas. Il nous dit, rappelez-vous à toujours son alliance. Rappelons-nous à toujours dans notre vie présente, puis dans la suite, son alliance qui est en Jésus, que le pardon des péchés est en Jésus, puis que tu as la vie éternelle en Jésus. Tout ce qui a été donné comme promesse s'accomplira. Dieu nous a dit de les attendre, ses promesses. Dans Habacuc, le chapitre 2, le verset 3. Il dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Puis si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Les prophéties sont fixées. Pas à notre temps, à nous, dans le temps que Dieu a déjà décidé. Les choses vont se faire selon la volonté du Père. Quand Jésus est mort, là, le timing qu'il a choisi, c'était exactement le timing qu'il fallait. Dieu s'est pas trompé. Il a même fait un timing qui arrive à la date précise de la fête de Pâques, qui était la mort de l'agneau, puis le sang de l'agneau qui était versé, la date précise que le Messie est mort, mais des milliers d'années plus tard. Tu peux pas avoir plus précis que Dieu. Dieu sait 100% exactement ce qui va arriver, quand ça va arriver. Puis pour nous, on dit, hey, ça tarde, ça prend du temps. Pour lui, c'était déjà fixé que ça serait ce temps-là. Puis il dit, si toi tu trouves que ça tarde, il dit, attends-la. Dans ce verset-là, ça dit, si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira, puis elle s'accomplira certainement. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, cherche-le comme un trésor. C'est le chant qu'on a chanté tantôt. Si Dieu a mis un rêve, une vision, un plan ou quelque chose, là, c'est Dieu. Fais confiance au Seigneur. Elle s'accomplira. Persévère. Non, non, faut pas se fier aux promesses des présidents qui te promettent des choses. Les autres, ils n'ont pas la force d'accomplir ce qu'ils promettent. Dieu veut qu'on ait une pleine confiance, une pleine assurance des promesses que l'on attend. C'est ce que ça nous dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 1. Il dit, or, la foi, c'est une ferme assurance des choses que t'espères. C'est pas juste, oh, je l'ai entendu, puis je pense que ça va arriver, mais là, tu t'es pas sûr, puis tu penses que Bon, tu y crées pas vraiment, ou tu y crées, mais tu te dis, je sais que ça, Dieu le dit, mais t'es pas sûr que ça va arriver. Ça, c'est pas la vraie foi. La vraie foi, c'est une ferme assurance des choses que t'espères. Dieu veut qu'on ait une pleine confiance qu'il a promis ça, il va le faire. Il veut nous amener là. Il y a plein de versets là, que je vous parle depuis tantôt, c'est des versets qui nous prouvent que Dieu ne ment pas, puis Dieu a dit que ça va se faire. Puis il dit, attends-le, même si tu penses que c'est long. C'est une ferme assurance, puis il dit, c'est une démonstration de ce qu'on voit pas. Parce que des fois, tu vois pas, mais toi, tu vas le vivre parce que tu le sais, puis ça s'en vient, puis tu l'attends, puis tu vas continuer à vivre, tu vas démontrer que tu y crois à cette affaire-là. Mais tu l'attends. C'est pas toujours instantané. Mais la foi, c'est comme un exemple. La foi dans le salut qu'on va avoir, on va ressusciter. Tu es obligé d'attendre de mourir. Tu n'as pas le choix. Fait qu'attends toute ta vie, mais que tu meurs, tu vas l'avoir. Mais en attendant, tu as d'autres choses que tu peux obtenir là, si tu demandes pour des choses de ce temps. Fais confiance au Seigneur, attends-toi sur lui. Comme ça dit, recommande ton sort à l'Éternel, et puis tu pousses sa sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, puis il va planer tes sentiers. Tu vas avoir sa main à l'œuvre, peut-être pas dans tous tes caprices, là. Surtout, il faut faire bien attention aussi quand on dit entre il va pourvoir à tous tes besoins ou à pourvoir à tous tes caprices, ça c'est deux choses différentes, là. Les choses selon sa volonté, ça c'est sûr, ça va s'accomplir. Il faut y laisser une marge de manœuvre de décider si c'est bon ou pas bon pour nous autres dans des certaines affaires qu'on peut demander. L'humanité, là, il a été témoin de plusieurs promesses qui se sont accomplies par la venue du Messie. C'est pas juste nous, là. L'exemple a été donné pour l'humanité en entier. Si le monde sont pas au courant, c'est parce qu'ils ont pas cherché à avoir la réponse. Parce que la Bible, dans l'Ancien Testament, annonçait plein d'affaires à propos de Jésus qui sont arrivées pile 100% comme ça avait été annoncé. Sur sa naissance, qui naîtra d'une vierge, qui naîtra à Bethléem, qui sera appelé Nazaréen parce qu'il a vécu à Nazareth, qui sortira de l'Égypte parce que son père est obligé de se sauver en Égypte, puis il a sorti son fils d'Égypte, toute la mort des nouveaux-nés qu'il y a eu dans cette période-là, puis là, des prophètes qui sont venus y parler, tout un paquet d'affaires, puis même sa vie, son onction qu'il a eue, puis ses miracles qu'il a vécu, puis à la fin, sa mort, sa résurrection, comme ça avait été annoncé. Sa mort, là, tu vois plein de détails dans le psaume 22 sur comment est-ce qu'il souffrait, puis quand ils ont tiré au sort sa tunique, puis ils ont partagé ses vêtements, puis ils ont craché dans la face, toutes sortes d'affaires qu'ils ont faites, là, c'est tout écrit, puis c'est tout accompli, tu peux pas avoir plus précis que ça. Dieu a prouvé qu'il était capable de parler de quelque chose puis de le faire, que ça arrive exactement dans le même timing de la date en plus que c'était annoncé. Dieu, là, il n'a rien à son épreuve. Il est sans limite. Il va avoir juste les limites que toi, tu y donnes pour que tu obtiennes quelque chose. Parce que lui, s'il promet qu'il a promis quelque chose, ça va s'accomplir, c'est sûr, comme qu'il veut. Alors regardez bien comment ce que ça dit dans Romains 15:8 à propos de Jésus. Je dis en effet que Christ a été le serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Dieu a confirmé ses promesses qu'il avait faites au peuple d'Israël. Quand il a envoyé ses prophètes pour dire qu'il était pour naître, on l'appellerait Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Des prophéties, c'était une par derrière l'autre au peuple juif, là, sur ce qui se passerait avec là, Jésus. Puis Jésus est venu parmi les juifs, les circoncis, pour prouver que Dieu, il tient ses promesses. Il y a 300 prophéties qui ont été annoncées. Oui. Il y a des centaines de prophéties qui ont été annoncées pour parler de ce que Jésus était pour vivre. Ça, sans compter les promesses pour les apôtres et les disciples, sans compter les promesses pour l'humanité, parce qu'il y a des promesses aussi pour ceux même qui ne se repentent pas. Il y a des choses que Dieu a promis qui vont arriver, puis ça, ils n'auront pas le choix de le vivre, comme le verset que j'ai lu tantôt, qu'il dit « tous les genoux vont fléchir devant lui ». C'est une promesse, mais c'est pas une bonne promesse pour celui qui avait refusé de fléchir le genou, parce qu'il va être heureux de le faire pareil, puis il n'y aura pas le mérite de l'avoir fait. Mais Dieu a prouvé dans sa parole qu'il était capable de faire les choses en les faisant à travers Jésus. Pour ça, il voulait nous prouver, je suis capable, confiez-vous en moi aussi pour le reste. Vous allez tout avoir les réponses de Dieu comme il le veut, comme il l'a promis. S'il y a certaines promesses que nous devons attendre, Dieu nous dit, désespérez pas. Parce que le désespoir, là, ça nous décourage. Le désespoir, c'est que tu perds ton espoir. Nous, on doit espérer en ses promesses, mais le désespoir, c'est que tu arrêtes, pas que tu arrêtes d'y croire en Dieu. Tu peux croire en Dieu, mais tu n'as plus l'espoir de t'attendre. Ton espérance est éteinte. C'est comme si tu marches à la dérive. Tu es en train de te laisser aller selon les vagues qui arrivent. Tu n'es plus en train de t'accrocher. Dans Hébreux chapitre 10, le verset 37, ça nous dit, « Encore un peu de temps, un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, puis il tardera pas. » S'il nous dit ça de même, c'est parce qu'il sait qu'il y en a qui vont chercher à se décourager. Ça prend du temps avant que Jésus revienne. Là, on n'est plus sûr s'il va vraiment revenir. Il va-tu vraiment revenir? Il dit encore un petit peu de temps, sois patient, désespère pas. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, puis il tardera pas. Puis là, il dit, mon juste vivra par la foi. Si on veut rester vivant devant le Seigneur, il faut garder la foi. Jésus va revenir, puis il va régler ça, toute cette affaire-là. Il vient pour nous chercher, puis il va nous amener avec lui, puis on va vivre l'histoire qu'il a dit qu'on était pour vivre. Puis ça passera pas à côté. C'est juste une question de temps. Continuons encore un peu de temps, encore un peu de temps. Attendons. Il doit venir, puis il va venir. Quand les anges ont dit aux onze apôtres, là, ils voyaient Jésus partir dans le ciel puis disparaître des nuages, puis deux anges ont apparu, ils ont dit, ce Jésus que vous avez vu partir, il va revenir de la même manière que vous l'avez vu partir. C'est juste une question de temps. Il n'y a pas juste un verset-là qui parle de cette promesse-là. Il y en a d'autres versets, que Jésus va revenir du ciel au milieu d'une flamme de feu, puis il vient pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, puis ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Puis il va avoir pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Ça, c'est dans 2 Thessaloniciens 1:8. Là, c'était pas prévu, mais là, je vous le dis quand même. C'est une promesse qui revient, puis ça va être tranchant ce jour-là. Il revient pour juger ceux qui ont refusé, puis il revient pour chercher ceux qui l'attendent. Il dit, mon juste va vivre par la foi, mais s'il se retire, mon âme prend pas plaisir en lui. Là, ça parle des rétrogrades. Dieu, il est pas content de ceux qui reculent, puis qui regardent en Égypte, puis ils retournent en arrière dans leurs anciennes vies. Puis là, ça dit, en parlant des chrétiens bouillants, là, il dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. On laissera pas l'épreuve du temps nous faire relâcher. Parce que quand tu t'attends au retour, puis tu en viens désespéré, c'est l'épreuve du temps. Le temps que tu as à attendre avant qu'il revienne, puis il est pour tous les chrétiens, puis il y en a qui ont un temps quand même confortable au confort de leur salon avec les sièges bien rembourrés, puis ils écoutent la TV. Il Il y en a d'autres, c'est des souffrances, puis ils n'ont plus de maison, puis ils sont errants dans la rue, puis ils ne savent plus où aller, puis ils n'ont rien à manger. Il y en a des chrétiens qui ont le temps, c'est ça le temps qu'ils attendent. Puis continuent à garder la foi qui sort de cette situation-là, puis que le Seigneur vienne les chercher. Fait que d'à travers le monde, il y en a toutes sortes de manières d'attendre. Comme Jésus dit, deux dans un champ, un va être pris, l'autre laissé, puis deux dans une chambre, couché dans un lit, un va être pris, l'autre va être laissé. Ça va être tranchant. Ceux qui sont prêts, qui marchent par la foi, ils vont obtenir. Mais Dieu veut nous stimuler dans notre foi, là, dans notre foi en ses promesses, qu'on mette notre espoir en lui. Dieu veut qu'on mette notre confiance, notre espoir en lui et non pas dans les hommes. Les hommes, c'est décourageant. Quand je dis les hommes, c'est les humains. Ça peut être des personnes proches, nos proches. Ça peut être notre femme, notre mari, nos enfants, nos parents. Parce que Jésus dit, je ne suis pas venu amener la paix, mais l'épée. Ça dit aussi que le prophète va être méprisé dans sa patrie, dans sa maison. Ça veut dire faut s'attendre qu'il y ait du rejet, puis qu'il y ait du mépris, puis qu'il y ait de la tromperie, puis qu'il y ait de la trahison, puis qu'il y ait des méchancetés qui se produisent. C'est annoncé. Mais dit, regardez à moi, ayez confiance à moi. Dans le psaume 37, le verset 5, ça dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Lui te décevra pas, parce que ses promesses sont vraies. Dieu veut qu'on lui fasse confiance, puis qu'on se réjouisse de notre salut. Dans Isaïe 25, ça c'est parce qu'on le sait qu'on est sauvé, puis ça qu'il veut qu'on se réjouisse de notre salut. Isaïe 25, 9, ça dit, « En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance, soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. » Tous ceux qui ont l'assurance d'être sauvés devraient être dans la joie. Jésus a dit à ses disciples, réjouissez-vous pas que les démons vous sont soumis, réjouissez-vous que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Si tu sais que tu es sauvé, sois dans la joie, réjouis-toi en Dieu, fais-lui confiance, regarde à lui, accroche-toi à lui, regarde un qu'en haut, regarde pas en bas. Si tu regardes en bas et tu vois quelqu'un découragé, là, tu peux l'aider, mais juste pour ça. Pas pour te laisser décourager, puis perdre ta confiance, perdre ton assurance, perdre ta joie, perdre ta paix. Nous marcherons par la foi. Amen. Il y a quelques promesses qu'on va regarder rapidement, là. C'est des promesses de base, mais il y en a des centaines et des centaines de promesses. Je pourrais pas toutes les sortir. Il y en a trop. Des promesses faites dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Il y en a pour tous les sujets des promesses. Je vais juste parler de quelques promesses, à peu près 5-6, là, des promesses rapides, là, qu'on connaît toutes, puis que faut garder confiance, c'est la base dans une vie chrétienne. Le Seigneur pardonne de leurs péchés les membres de son Église. Dans 1 Jean 1-9, ça dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. On ne devra pas se laisser accuser par un manquement qu'on a fait. Oui, si tu y penses, puis là, ça t'affecte parce que tu as une honte, mais tout de suite, me remets-la au Seigneur. Confesse-la au Seigneur. Dieu, il est fidèle et juste. Pourquoi que c'est juste? Parce que Jésus a payé pour ça. Il ne peut pas pas t'appardonner. S'il a payé, puis tu l'as confessé, c'est pardonné. Tiens, amen. Laissez-vous pas mettre des doutes dans la tête par le diable, là, comme des accusations. Puis tu l'as confessé, c'est pardonné. Arrêtez de penser à ça. C'est le diable qui essaye de vous jeter à terre, puis vous décourager, puis vous perdre espoir aux promesses de Dieu, puis que là, vous vous laissez aller. Restons accrochés aux promesses. Un autre point, il dit, le Seigneur donne aux membres de son Église la vie éternelle. dans Jean 3, 36, ça dit, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Dieu, il est pas menteur. Si tu crois en Jésus, puis tu marches avec lui, je parle de la vraie foi, là, pas de la croyance, une croyance urbaine comme juste une information, là. Tu y crois qu'il est mort pardonner tes péchés. Tu as donné ta vie, tu crois en lui, tu le suis, là. T'as la vie éternelle. C'est rien qu'une question de temps pour te ramasser là, là. Tu vas mourir un moment donné, puis tu vas être rendu là. Tu peux pas ne pas te rendre là. Impossible, si tu crois en lui. À moins que tu abandonnes la foi. Là, c'est sûr, si tu doutes, puis tu crois plus, puis tu te recules, puis tu crois en d'autres choses en plus, parce qu'il y en a qui ont abandonné, puis se mettent à croire en Marie, ou à changer de devenir musulman, ou ils changent de foi, là, parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont pas compris l'essentiel. Puis juste avec l'essentiel, là, ça nous donne plein de raisons de rester chrétien jusqu'à la fin. C'est une autre promesse. Il dit, le Seigneur donne aux membres de son Église le Saint-Esprit. Dans Éphésiens 1, 13, ça dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, mais vous avez été scellés du Saint-Esprit. Quand tu crois, puis tu es sincère, tu lui as demandé pardon, puis tu t'accroches à lui, tu l'as. T'as pas à douter. Je te dis pas que tu es rempli, je te dis pas que tu vas avoir tous les dons, je te dis pas que tu vas avoir toute sa puissance, mais tu as le sceau de Dieu, tu es scellé du Saint-Esprit, c'est un sceau, c'est un étampe que Dieu te met dans le front, paf! Propriété privée de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vient dans ta vie, tu es une nouvelle personne, tu appartiens à Dieu, tu es sauvé. Tu n'as pas à douter de ton salut parce que tu as un doute, là. Non. T'es pas sauvé par ton doute, t'es sauvé par la foi en Jésus. Tu crois en Jésus qui est mort pardonner tes péchés, puis t'as confessé de ta bouche devant les hommes que tu veux le suivre puis le servir. Tu t'es donné à lui, tu marches avec lui, t'es sauvé. T'as la vie éternelle. Ça dit, t'as cru en l'Évangile, ben t'es été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Fait que, doutez pas de, suis-tu sauvé? Suis-tu vraiment sauvé? T'es sauvé si tu crois. C'est pas par tes mérites que t'es sauvé, c'est à cause que Jésus te donne le salut. C'est à cause de lui. Une autre promesse qui est donnée à son Église, le Seigneur est présent avec son Église, puis il accompagne tous les membres de son Église. Il est présent avec nous tous les jours, même si tu ne le ressens pas. Il ne peut pas ne pas être là, parce qu'il est omniprésent, premièrement, mais il ne peut pas ne pas être là, parce qu'il a dit qu'il sera avec nous tous les jours. Il dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mais c'est pas le verset que je voulais emmener, mais celui-là le dit qui est avec nous tous les jours. Ça veut dire que tous ceux qui ont la foi, Jésus les accompagne, puis il est avec eux. Mais dans Colossiens 1, 6, ça nous parle de la présence de Jésus. Ça dit, il est au milieu de vous et dans le monde entier, à travers les autres disciples. Il porte du fruit. Il va grandissant. L'œuvre de Dieu s'étend quand il y en a d'autres qui s'ajoutent à l'Église. Ceux qui se repentent et qui mettent leur foi dans le Seigneur sont sauvés. Jésus est en eux. Puis ça s'en va grandissant dans le monde. Depuis 2000 ans, ça a parti avec 12, sont rendus des milliers, des centaines de milliers, des centaines de millions de chrétiens présentement. Ça s'en va grandissant. Mais il dit, il est au milieu de vous puis dans le monde entier. Le Saint-Esprit est là, Jésus est là, Dieu le Père est là. Il dit, c'est aussi le cas parmi vous. Il parle aux chrétiens. Faut-tu croire que c'est le cas aussi pour nous qui croyons que Jésus est au milieu de nous? Depuis le jour où ce qu'on a entendu et connu la grâce conformément à la vérité. Quand tu entends les vraies affaires de l'Évangile, puis tu y crois, il est avec toi, puis tu as le sceau, tu es né de nouveau, tu marches avec le Seigneur, il est là. Crois-le. Il est chez vous quand vous êtes chez vous, il est dans l'auto quand vous êtes dans l'auto, il est dans l'église quand on vient à l'église, il est partout avec nous. Une autre promesse qui était dit, en cours des promesses générales, le Saint-Esprit est au milieu de son Église, puis il veut donner ses dons et ses fruits. Pis c'est dans ce sens-là, ce verset-là, il porte ses fruits. Il est au milieu de vous et dans le monde entier, puis il porte ses fruits. Fait que les fruits, nous, des fois, on pense qu'on n'a pas fait grand-chose, on a juste parlé, mais c'est un fruit. Pour lui, là, tu fais qu'est-ce que tu as à faire, c'est des fruits. Tu fais l'œuvre qu'il te demande, c'est des fruits. L'obéissance, c'est des fruits. Fait qu'il porte du fruit, puis nous, on en porte, ne veut pas être avec nous, puis on fait ce qu'il nous demande, fait qu'il on porte du fruit. Être ici aujourd'hui, puis de vous laisser à chercher à apprendre, puis à grandir dans le Seigneur, puis à louer Dieu, c'est du fruit pour Dieu. Dieu trouve ça agréable de voir des gens qui sont assoiffés, puis qui veulent entendre, puis qui veulent grandir, puis qui veulent être fortifiés. Un autre passage, ça nous dit que le Seigneur protège les membres de son Église, puis il nous garde dans sa main. Dans Jean 10, 28, il dit, « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » C'est encore une promesse pour chacun de nous. Tu as le droit de croire que Jésus te garde dans sa main, puis personne ne peut t'enlever de là. Pour tous les chrétiens, sauf, décide pas de débarquer. C'est juste ça. Mais crois que Dieu est avec toi et puis Dieu est en train de te garder dans sa main. Un autre point, c'est que le Seigneur va pourvoir aux besoins des membres de son Église. Dans Philippiens 4, 19, ça dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Dieu pourvoira à tous vos besoins. Comme je disais tantôt, je ne parle pas des caprices, je parle des besoins. Dieu pourvoit aux besoins, à tous nos besoins. Puis il va pourvoir, puis il faut s'attendre sur lui que Dieu nous donne ce qu'il a promis, parce qu'il a dit qu'il pourvoira. Quand on parle du mot pourvoir, là, que là, c'est remplir. C'est pas juste à la miette. C'est-à-dire remplir jusqu'au bord, faire abonder, fournir d'une façon libérale, ça veut dire généreuse, rendre plein, compléter, remplir au sommet, c'est ça qui est l'idée que Dieu pourvoira, ça veut dire pleinement à tous nos besoins. Besoin. Il faut pas oublier ce mot-là. Le Seigneur ouvre les portes aussi aux membres de son Église. Comme c'est écrit dans l'Apocalypse, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David. Celui qui rouvre et personne ne fermera, puis celui qui ferme puis personne n'ouvrira. Ça veut dire que quand tu marches avec lui, c'est lui qui te rouvre les portes. C'est lui qui peut aussi te les fermer. Mais quand tu les fermes, ça veut pas dire qu'il veut plus que tu fasses rien, c'est parce que peut-être qu'il veut te montrer une autre porte à côté. Mais si tu te laisses guider par lui, il va te montrer où ce qu'il veut que tu ailles. Puis te laisser guider, ça veut dire à être à l'écoute. Chercher à apprendre qu'est-ce qu'il a à dire. C'est pas juste faire à notre tête, parce qu'on a nos idées personnelles, puis il y a les celles que Dieu a. Si on n'écoute jamais, on y demande pas, ou ce que tu me veux, Seigneur, qu'est-ce que tu essaies de me dire? Puis là, chercher à comprendre pour que tu fasses des pas dans une confiance que ça vient de Dieu, et non pas juste de décider des affaires puis de les faire. Vous voyez, il y a une différence. Mais Dieu rouvre des portes, il est capable de t'ouvrir des portes, il est capable de te les fermer. Puis il est capable aussi de laisser des temps que la porte reste ouverte, puis il y a d'autres moments que la porte reste fermée pour des affaires. Fait qu'il faut faire confiance de se laisser diriger par lui. Il a dit qu'il le ferait. Puis un dernier verset. Le Seigneur va venir chercher les membres de son Église. C'est une autre promesse assurée. Dans Jean 14, 3, Jésus le dit à ses disciples, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » C'est commencé il y a 2000 ans, ce recrutement-là, pour loger des gens qui sont repentis dans sa nouvelle ville sainte. Puis il dit, là, c'est notre tour, parce que c'est nous qui sommes rendus ici. C'est notre tour d'attendre son logement qui est en train de nous préparer. Il y a un logement, puis c'est marqué Daniel Poulain. Un autre logement, Lynn Garand. Un autre, Jean-Claude. Un autre, Maurice. Un autre, Yvon. Un autre. Il y a tous les noms, là. Il y a des logements avec nos noms. Il dit, je m'en vais vous préparer une place. Ça veut dire, attendez-vous que vous avez une place qui est en préparation. Puis la beauté de cette place-là va dépendre de les matériaux que vous allez envoyer en l'air. Puis les matériaux, c'est toutes les œuvres justes des saints. Tout ce que vous faites pour servir le Seigneur, ça envoie des matériaux, puis la place, ça s'embellit. Ouais, la couverture ne coulera pas, mais il y a du, je sais qu'il y a du monde qui va vivre au-dessus de moi, parce qu'il y a plusieurs étages. Non, on ne sait pas si on habite en... Mais tout ça pour dire, tout ce que Dieu a promis, attendons-nous sur lui, faisons-lui confiance, regardons aux choses que lui nous a promis, puis le reste va devenir terne. Ça va nous faire moins d'effets négatifs dans notre âme. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie, qui nous fait du bien. C'est la vérité qui sort de ta bouche, Seigneur. Puis on a confiance en tout ce que tu as dit, tu vas le faire. Tu es en train déjà de faire bien des choses, puis il y en a d'autres qui vont s'en venir dans la suite. Puis on met notre confiance en toi, Seigneur. On veut regarder à toi. On veut pas se laisser distraire ou déranger émotivement ou physiquement par les choses qui se passent autour. On va avoir nos yeux en haut sur qu'est-ce que tu es en train de faire, sur qu'est-ce que tu fais, parce que toi, tu es fidèle, Seigneur. Merci pour tes promesses. Merci de confirmer tes promesses, Seigneur. Continue à nous garder dans la foi, dans une foi qui persévère. Puis je te rends grâce, puis je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.